Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Labranche. Vous êtes le président d'Intervig, une interprofession d'élevage et de viande de Guyane. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous.
Alors, cette interprofession regroupe combien de métiers, de branches en Guyane?
Alors, l'interprofession animale, c'est une structure que nous avons voulu créer pour permettre à l'ensemble des partenaires de pouvoir se retrouver autour de la table. Donc, au sein de cette institution, nous avons les professionnels de la viande, qui sont les structures à vocation économique. Et nous avons également les distributeurs. Donc nous avons deux grandes familles, la famille Amont et la famille Aval, et qui est constituée des partenaires de la distribution, de la transformation, de la distribution, et bien sûr les producteurs qui sont au sein des structures à vocation économique, donc les coopératives ou les groupements d'éleveurs.
Pourquoi la création d'une interprofession était-ce nécessaire pour structurer cette partie de la profession, cette partie du monde agricole?
Bon, c'est un maillon nécessaire qui a eu toute son importance à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est pas par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, on se retrouvait à produire de manière, je dirais presque anarchique, en ne pouvant pas soit satisfaire le marché ou soit en produire en quantité importante à un moment donné. Donc il a fallu à un moment donné rencontrer l'ensemble des partenaires et voir avec ces gens-là quelles sont les possibilités qui nous sont offertes en termes de produits à commercialiser. Donc ça va aussi bien pour les distributeurs, donc les GMS, les grandes surfaces, et comme pour le fabricant d'aliments, parce que là aussi, en fonction de la progression et de l'évolution du secteur, eh bien, il faut nourrir les animaux, donc il faut prévoir des céréales pour la transformation et tout. Donc l'ensemble de ces partenaires-là sont assis autour de la table et ensemble on réfléchit à comment on occupe correctement le marché. Et donc eux, ils nous donnent leurs chiffres et leurs besoins et nous ensuite, en tant que professionnels, on installe, on développe et on fait en sorte de satisfaire les besoins. Bon, les besoins ne sont pas couverts, comme vous le savez bien, à 100%, mis à part les œufs, où nous avons là une atteinte de la souveraineté sur la production de l'œuf. Mais sur les autres productions telles que la viande, volaille, porc, bovin et autres, au vin caprin, il y a encore de la marge et du développement à avoir.
Je sais que vous avez créé un label. Hormis ce label, comment êtes-vous structuré et quelles sont les autres actions que vous avez mises en place pour organiser, structurer ce secteur d'activité?
Alors, actuellement, vous parlez du label RUP, c'est ça, hein?
Oui.
Donc, par rapport à la loi Egalim, où l'État dit il faut qu'il y ait 50% de la production locale qui soit distribuée dans les cantines scolaires, et 20% dont 20% du bio. Donc, pour permettre à nos acheteurs de reconnaître le produit et d'avoir une certaine traçabilité, donc il y a un label qui a été construit, qui a été réfléchi avec l'ensemble des partenaires pour justement permettre que ces produits identifiés-là iront vers ce réseau de distribution qui est les cantines scolaires. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le consommateur, les enfants qui mangent à la cantine, c'est les consommateurs de demain.
Bien sûr.
Donc, il faut les apprendre à consommer local pour qu'ils aient la réaction d'acheter local après. Et bien sûr, ce qu'il y a de bien dans le métier de l'agriculture, c'est que ça crée des passerelles, des perspectives, et même au niveau du cursus scolaire, on peut imaginer qu'à un moment donné, il serait nécessaire que nous réfléchissions tous ensemble pour pouvoir orienter nos jeunes qui vont en études. Parce qu'aujourd'hui, le besoin se fait sentir cruellement. On a un manque de techniciens. Dans l'agriculture, on a un manque de techniciens dans l'élevage, on a un manque de techniciens dans l'élevage bovin, on a un manque de techniciens dans les porcs.
Donc c'est la faute à la formation?
Donc c'est la faute, pas forcément la faute à la formation, parce qu'elles existent, ces formations-là.
Mais pas s'adapter.
C'est les orientations dans les cursus scolaires qu'il faut à un moment donné se pencher sérieusement sur l'affaire et dire qu'on a besoin de X techniciens ou X techniciens dans tel secteur. Donc, essayons d'orienter nos jeunes vers ces secteurs-là pour que demain, avec une proposition d'embauche à la clé, c'est ça aussi qu'il faut. Parce que là, aujourd'hui, on était en train d'en parler il n'y a pas très longtemps, et on se disait qu'il serait peut-être temps que quelqu'un prenne l'initiative de créer un répertoire des jeunes qui partent en formation dans les différents secteurs, et que nous puissions avoir accès à ce répertoire et pouvoir aller chercher ensuite les besoins de formation, les besoins de les collaborateurs que nous aurons besoin pour nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dès qu'on a besoin de quelqu'un, on va le chercher à l'extérieur. Et malheureusement, la personne reste un an ou deux et après s'en va. Ouais. Donc il acquiert des connaissances, il acquiert de la formation qu'on va lui dispenser pendant la période où il va être là. Et puis tout ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre parce qu'ils sont bons. Donc il est préférable d'avoir des jeunes du pays qui restent et qui ont envie de s'adonner aux activités qu'on va leur proposer. Et je pense qu'il y a beaucoup de création d'emplois à la clé, mais pour cela, il faudrait qu'on arrive à échanger avec ce niveau de jeunes qui partent se former. Alors, pour revenir, la deuxième question, c'était sur...
Alors, c'est de savoir, pour nos auditeurs et internautes, comment vous êtes organisé, les apports que vous êtes en mesure d'amener à ces entreprises qui font partie, au fait, hein, de l'Intervig. Et expliquez-nous également comment Intervig est financé, structuré, combien de collaborateurs y travaillent, est-ce qu'ils sont sur le terrain ou est-ce que le travail est principalement administratif?
Ok, donc alors faut savoir que Intervig, c'est pas une coquille où il y a des gens ou des collaborateurs qui y sont. Non, Intervig, c'est nous.
Ok.
Nous, les acteurs. C'est-à-dire les acteurs qui sont au sein de l'interprofession. C'est-à-dire les distributions, c'est nous qui définissons la politique. Après, bien sûr, on a des collaborateurs. Ils sont au nombre de 5 aujourd'hui, avec un secrétaire général, qui administrent en fonction des desiderata du conseil d'administration et des objectifs que nous sommes fixés pour le développement des différentes actions que nous menons. Donc, ces collaborateurs nous accompagnent. Ils sont talentueux. Et ils s'investissent beaucoup. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'interprofession, nous avons un objectif qui est celui de faire connaître le mieux que possible et le plus souvent et rappeler aux consommateurs qu'il y a des hommes et des femmes talentueux qui contribuent au développement économique de la région et qui se réveillent tous les jours pour aller travailler et leur permettre d'avoir un produit de qualité, de la viande de qualité à consommer dans leurs assiettes. Donc nous avons le rôle d'Intervig, c'est alors tout ce qui concerne la partie, il y a un gros volet administratif, c'est-à-dire les actions POSEI, les actions organisationnelles sur les différentes demandes que peut nous formuler soit la CTG, soit l'État, pour pouvoir réfléchir ensemble avec nos partenaires comment on veut atteindre d'un point A à un point B. Et puis, il y a bien sûr toutes les actions de mise en avant, de valorisation de la production locale, de promotion que nous faisons également avec nos partenaires.
Par le mois de la viande.
Par le mois de la viande, entre autres. Mais on a beaucoup évolué depuis bientôt un an, où on fait des animations assez régulièrement pour pouvoir tenir en alerte notre consommateur et qu'il sache qu'il y a de la viande à sa disposition. Cette semaine, on a la semaine de la viande, avec le 15 octobre, avec la mairie de Cayenne. Et là également, nous allons faire de l'animation pour mettre en avant, valoriser, faire connaître à ceux qui ne sachent pas qu'il y a de la production locale en Guyane quand même. Mmh. Bon, c'est vrai que notre production ne couvre pas suffisamment les besoins du territoire. Parce que d'une part, quand vous installez, quand vous voulez faire du bovin par exemple, c'est énorme. Il faut de la surface. Il faut des animaux et il faut des moyens financiers qui sont assez importants. Donc là aussi, nous y travaillons avec nos partenaires pour voir comment on peut un petit peu, pas un petit peu, mais fortement augmenter la production viande sur l'ensemble du territoire. Quand je dis l'ensemble du territoire, on pense également aux communes éloignées, hein, telles que Marie-Claire. Depuis le temps qu'il y a des politiques qui sont menées, je dis que c'est quand même dommageable qu'on voit encore des gens acheter des cartons de caisses de poules réfrigérées et qui se décongèlent à la limite au temps d'arriver chez eux.
C'est peut-être parce que c'est moins cher, monsieur Labranche.
C'est moins cher et c'est surtout le fait que c'est une des sources de protéines qu'ils ont la possibilité d'avoir le plus facilement possible. Mais on peut y réfléchir également à la création d'activités sur place, d'activités agricoles. On peut imaginer qu'il y ait des agriculteurs qui produisent de la viande, de la volaille, pour satisfaire les besoins de la commune. Elle n'est pas si grande que ça. Donc on peut réfléchir ensemble sur le porc, sur la volaille, sur le bovin, avec des petites unités d'abattage ou de transformation qui pourront en découler. Et pour permettre aux consommateurs de cette partie de notre département d'avoir eux aussi droit aux produits de qualité.
Mmh. Alors, monsieur Patrick Labranche, face à une demande de viande qui explose, vous l'aviez dit vous-même, pourrez-vous résister encore longtemps à l'élevage intensif, ne serait-ce que pour contrer, faire face à l'offre brésilienne ou qui vient des États-Unis ou encore de l'Argentine, où là vous avez des milliers de têtes d'animaux qui sortent tous les 6 mois, puisque au fait il y a une question de rentabilité, donc il faut que faut que ça tourne. Et je crois savoir qu'aujourd'hui en Guyane on est plutôt dans un élevage entre guillemets artisanal.
Alors dans l'élevage, c'est particulier. Bon, il faut savoir que, comme je disais, la période de mise en place d'un élevage bovin, c'est long, c'est coûteux et il faut de l'espace.
Combien de mois il faut compter
Ben, écoutez, déjà, si vous partez de zéro, en Guyane, nous, on a des arbres qui font 1,50 m de diamètre, donc il faut les abattre. Quand on veut faire de l'élevage bovin, si on veut avoir une activité qui permette à l'agriculteur de se nourrir, d'avoir un revenu correct, c'est-à-dire un SMIC, quand je dis revenu, pour nous, revenu correct, c'est un SMIC, il lui faut 200 hectares, 180 vaches. Il faut environ 1,6 million d'investissement pour pouvoir réaliser un outil comme celui-là.
Mais les vaches, entre le moment où vous les recevez et au moment où on les abat, faut compter quel délai?
Alors, si vous partez de zéro, encore une fois, vous achetez des génisses qui font 350 kilos, à la limite, à cet âge-là, elles peuvent partir à la reproduction. Donc elles vont avoir une gestation de 9 mois, d'accord? Ensuite, le veau va avoir... il va être sevré à 8-10 mois, d'accord? Et ensuite, il sera élevé pendant 24-30 mois. D'accord ? Donc, vous n'avez pas, quand vous additionnez tout ça, vous n'avez pas vendu la première bête avant 2 ans et demi, 3 ans même. D'accord ? Donc, après, dans l'activité bovin, il y a deux aspects. Il y a un aspect naisseur et un aspect engraisseur. Donc, il peut y avoir des gens qui se contentent de la partie à élever des vaches pour produire des veaux. Et puis ensuite, il peut y avoir des agriculteurs qui sont là uniquement pour engraisser ces veaux-là, pour pouvoir les envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, nous avons des animaux qui, malheureusement, ont un poids carcasse qui n'est pas très, très élevé, en moyenne 230-250 kilos. Et là également, Intervig, nous travaillons sur un projet de coopération avec nos partenaires brésiliens, entre autres, pour voir comment il est possible déjà de pouvoir ramener des céréales avec chez nos voisins pour contribuer à l'alimentation de nos animaux. Et puis éventuellement voir ce qui est possible de faire au niveau élevage avec eux pour essayer d'améliorer le rendement carcasse de nos bêtes et puis et un petit peu la génétique.
Et vous faites les deux, de la reproduction également, vous en engraissez pour en vue de les abattre?
Oui.
D'accord.
Oui, mais effectivement, bon, on parle du bovin, mais c'est pareil dans le porc ou dans la volaille. Il peut y avoir les deux activités, en tout cas chez le bœuf et le porc. Donc les activités. Bon, on a aussi, par rapport à tout ça, on a aussi une population, une démographie qui est galopante. Même si les efforts sont significatifs par rapport à ce qui se passe dans notre agriculture et significativement dans la partie élevage, on voit qu'il y a des progressions, des augmentations même intéressantes. Mais bon, la population croît vite aussi. Donc, et l'agriculteur n'a pas forcément toujours les moyens mis à sa disposition pour lui permettre de réaliser un instant T un investissement. Vous savez, en général, un agriculteur en Guyane, c'est quelqu'un de très courageux. Parce que la plupart du temps, il investit sans argent. Enfin, quand je dis il investit sans argent, il investit sans forcément un accompagnement bancaire. Donc, il puise soit dans sa trésorerie, ou bien il gagne 10 euros, il mange avec 1 euro et il investit les 9 restants. Donc, il faut absolument qu'à un moment donné, quand je dis l'ensemble des partenaires, j'inclus également les banques. Aujourd'hui, elles font l'effort. Certaines d'entre elles font l'effort d'accompagner les professionnels dans cette démarche-là. Pour permettre justement pour leur permettre justement d'atteindre un niveau de développement permettant de couvrir le marché. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement le problème des viandes. On en aura toujours des viandes qui viennent de l'extérieur. Mais on peut imaginer également que ces viandes qui viennent de l'extérieur peuvent recevoir une taxe qui va être redistribuée à la production locale de façon à augmenter et à se développer
absolument,
davantage.
Absolument. Est-ce que vous êtes sensible, Monsieur Malbranche, à l'impact de l'élevage sur l'environnement face à l'urgence climatique, on en parle de plus en plus. L'élevage serait une des causes du réchauffement de la planète. Quelles sont les actions que vous mettez en place justement pour diminuer cet impact sur l'environnement?
Écoutez, moi, chacun y va de son petit commentaire. À un moment donné, il faudrait savoir ce qu'on veut, quoi. S'il y a des vaches, on va les empêcher de déféquer, on va les empêcher d'avoir des gaz, je sais pas, mais il y a...
Non, mais là, l'idée, c'est de réduire, par exemple, la consommation d'eau, qui est très importante dans l'élevage. Voilà, un point sur lequel que vous pourriez intervenir, par exemple.
Je ne sais pas comment. Réduire l'utilisation. Bon, c'est vrai que dans certaines activités, telles que le porc, on peut réduire effectivement la consommation d'eau en modernisant un peu les ateliers, en y mettant des caillebotis, par exemple, où les animaux n'auront pas à être lavés comme ça se fait dans les exploitations où c'est encore très traditionnel. Bon, de toutes les façons, toutes les actions permettant de réduire le taux d'effection sur l'environnement, nous sommes, en tant qu'agriculteurs, on est preneurs. On n'est pas des... Comment dirais-je ? On n'est pas de ceux qui pensons qu'il faille détériorer la nature. L'agriculteur, lui, il prend soin. Quand il a le sol sur lequel il a son activité, c'est son outil de travail. Donc il a tout intérêt à le préserver et à faire en sorte qu'il dure le plus possible de façon à avoir les rendements nécessaires et la qualité surtout des produits. En Guyane, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, les professionnels guyanais, on utilise des produits, certains dans le conventionnel utilisent des produits chimiques,
phyto.
Si c'est des produits phyto, c'est tout à fait normal, mais je veux dire que en termes de...
Tout à fait normal, je ne sais pas, mais en tout cas, ils en utilisent.
Si vous voulez avoir des résultats de ne pas être attaqué systématiquement et infesté par toutes sortes d'attaques possibles et imaginables, vous avez intérêt à un moment donné. Mais les produits...
Il y a peut-être d'autres solutions, mais bon,
oui,
c'est un autre débat.
Oui, il y a d'autres solutions. Bon, il y a du bio, il y a les gens qui sont en bio, on voit bien comment... moi, personnellement, je suis en bio, donc j'utilise pas de produits chimiques, mais je peux vous dire que c'est la croix et la bannière. Il faut y aller pour sortir des produits. Donc, c'est pourquoi, des fois, les gens trouvent que les produits bio sont chers, mais les quantités récoltées ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez. Donc, forcément, à un moment donné... Il faut pouvoir là aussi permettre à l'agriculteur d'avoir un revenu correct. Mais si on revient sur le conventionnel, quand vous faites de l'agriculture en Guyane, vous êtes entouré de bois et de forêts. Donc forcément, vous avez des insectes qui se multiplient et se développent à proximité de votre exploitation. Donc vous utilisez des barrières, à partir de plantes. En plantant des différentes espèces comme de la citronnelle ou bien ce qu'on utilise des fois pour, euh, pour, au cimetière, là, la petite fleur jaune, comme on appelle ça, cacapoule, nous, mais c'est un nom particulier. Et ça peut être mis sur les parcelles pour permettre d'aider un peu. Mmh. Mais bon, l'utilisation de produits phytosanitaires, en tout cas, c'est fait le moins en moins. Et il faut trouver de manière à diminuer le plus possible.
Oui, on va revenir à l'élevage. Comment identifier, je me mets à la place du consommateur, comment peut-il identifier les produits issus de l'élevage de Guyane? Et bon, les points de vente, vous en avez cité un certain nombre tout à l'heure, mais c'est surtout comment arriver à voir et à reconnaître ces produits.
Alors, normalement, tout produit, quelle que soit son origine, doit être identifié sur le lieu où vous allez l'acheter. Donc,
Sur l'étiquette ?
Sur l'étiquette, oui. Vous avez un
produit. C'est marqué viande locale ?
C'est marqué viande locale. Et il y a également le macaron de l'interprofession qui est sur l'étiquette quand ça concerne la viande locale.
On voit l'écran, oui.
Et sinon, après, sur les autres produits, c'est écrit Origine France. Et là, vous savez très bien que ça vient pas de Guyane.
Il y a une traçabilité au niveau de ces produits. On peut, quand on achète la viande, on peut savoir si cet animal a été abattu à Sinnamarie, à Saint-Laurent, à Regina.
Absolument, absolument. Sur l'étiquette, quand l'animal arrive à l'abattoir, il est identifié, il a une boucle et son passeport qui est récupéré. Et tout ça est enregistré sur le document qui est adossé à l'animal qui vous est livré ou vendu. Donc vous avez le numéro de la bête, le numéro de l'élevage, vous n'avez pas forcément le nom de l'éleveur sur l'étiquette, mais vous avez en tout cas sa provenance, de quel élevage et le numéro de l'éleveur qui est concerné. Donc il y a la possibilité de tracer l'animal, et heureusement d'ailleurs, puisque si jamais il y avait un souci quelconque, les services vétérinaires pourraient remonter à la ferme sur laquelle l'animal est sorti.
Parlons maintenant des manifestations que vous organisez. On a parlé du mois de la viande. Je pense que les Guyanais maintenant sont habitués à cet événement. Il y a également des journées portes ouvertes que vous organisez. Il y a le mois événement aussi.
Donc, il y a quelques années, notre événement phare, c'était le mois de la viande. Donc, tout le mois de novembre, nous faisons des animations sur la viande locale.
C'est bientôt là, le mois
de la viande. C'est bientôt là. C'est à partir du 5-6, l'inauguration du prochain. Et d'ailleurs, nous y faisons un e-salon, le premier e-salon national. Il n'y en a jamais eu dans l'Hexagone. Donc ça va être le premier qui va être réalisé en Guyane. Et là, il y aura des animations, effectivement, découvertes. Et alors, nous proposons également, parce que le consommateur, il aime bien savoir ce qu'il mange, il aime bien savoir d'où ça vient. Donc là, nous organisons également des fermes, des journées à la ferme, où le consommateur a la possibilité d'aller voir chez les agriculteurs, de visiter, et également de s'approvisionner en viande fraîche locale. Donc ils auront l'occasion d'acheter également là sur les portes ouvertes que nous réalisons. Donc les portes ouvertes ne se font pas uniquement à la ferme, mais se font également dans une unité de transformation que nous avons, soit aller visiter l'abattoir, soit aller visiter les ateliers de transformation, l'atelier de préparation des œufs. Tout ça, c'est des possibilités qu'ont les consommateurs en s'inscrivant pour y aller. Donc, comme je disais, nous avons changé notre fusil d'épaule depuis bientôt un an, en faisant en sorte qu'il y ait d'autres animations. Il n'y a pas que le mois de la viande. Il y a aussi des animations avec des restaurants, des repas éventuellement à gagner dans un restaurant en répondant à quelques quiz. Donc tout ça pour que les agriculteurs, enfin pour que les consommateurs puissent avoir un petit peu plus d'éléments leur permettant de faire leur choix.
Intervig est soutenu financièrement par les pouvoirs publics?
Oui, nous avons aujourd'hui une enveloppe du POSEI nous permettant d'avoir des actions telles que l'animation et les promotions de la viande locale. Et puis bien sûr, Intervig, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le projet PCIA, nous montons également des projets où nous répondons à des appels d'offres qu'ils nous ont donnés ou pas. Et à partir de cela, à partir de ces moyens qui nous sont donnés, ça nous permet également de continuer à développer et aller sur d'autres actions un peu plus larges, mais toujours concernant le développement de la viande et son intérêt.
J'ai vu que vous réalisiez également des études.
Oui.
Est-ce que ces études ne pourraient pas être portées, par exemple, sur les débouchés pour permettre au centre de formation, au lycée, pour pouvoir mieux orienter les jeunes vers ces filières-là, pour pouvoir après s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle.
Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le manque criant de techniciens ou de collaborateurs dans les différents secteurs de l'agriculture font que, à un moment donné, il est nécessaire que nous réfléchissions tous ensemble pour voir comment est-ce qu'il est possible d'orienter, soit dans le cadre de formation et même de spécialisation, parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà formés, qui sont partis, et par exemple dans l'agriculture et dans le port, quand vous faites des formations genre BTS dans la filière animale, vous avez besoin à un moment donné d'avoir une spécialisation. Donc orienter les jeunes dans ces choix-là pour qu'ils sachent que dans la filière avicole ou dans la filière porcine ou bovine, il y a des opportunités. Donc il faudrait qu'ils aillent se former dans ces directions-là. Bien sûr, bien entendu, nous sommes... Après, il faut trouver quelqu'un avec... Il faut trouver comment... Bon, avec la chambre d'agriculture également, ça peut se faire, ou même avec la collectivité territoriale. C'est d'identifier une plateforme, c'est créer une plateforme qui va permettre qu'on puisse aller puiser et trouver les personnes qui sont nécessaires à nous accompagner.
Et les études que vous avez faites étaient portées sur quel aspect ?
Mais écoutez, actuellement, on va mener une étude avec l'ADEME sur tout ce qui est comment utiliser les effluents des élevages. Donc, il y a cette étude-là. Il y a le dossier PCIA qui va nous permettre là également... de faire une étude sur les besoins en termes de céréales et en termes de génétique. Et puis, nous avons également répondu à un projet, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive, mais c'est en bonne voie. Là, actuellement, on fait également une étude aussi avec les pêcheurs, mmh. sur la consommation du poisson en Guyane. Donc il y a tous ces éléments-là sur lesquels intervient et accompagne les différents secteurs. Donc je dis que l'interprofession était sur les filières viande animale, mais également poisson, puisqu'on a un adhérent qui est la Côte d'Épeigue, pour la Cogumère, pour la cité.
Oui, oui, c'est assez vaste, finalement, vous regroupez énormément de
on reste dans la viande, et puis on a des particularités avec des partenaires qui jugent que l'intervention d'Intervig fait qu'ils sont intéressés à participer. Mmh. Rien que le fait d'avoir les partenaires commerciaux autour de la table, c'est aussi un point intéressant.
Mmh. Ça peut leur permettre peut-être de peser davantage dans certaines négociations. Ce sera ma dernière question, M. Patrick Labranche, c'est de nous parler de votre feuille de route pour les mois qui viennent.
Eh bien, elle est assez chargée, hein, parce que on a de grands chantiers tels que le POSEI. Alors le POSEI, c'est une aide qui est apportée aux agriculteurs pour leur permettre de produire et de surtout de leur permettre de garder leurs revenus tout en diminuons les coûts de production envers le consommateur. Mmh. Et cette aide-là, on va y travailler parce que l'ensemble des départements d'outre-mer ont accès à cette aide. L'enveloppe n'est pas expansive et que les discussions vont être rudes cette année, je pense. Parce que nous, en Guyane, on n'arrête pas de se développer. Quand on a perçu 1 euro d'aide, ça nous a permis de créer 4 euros de valeur ajoutée. Mmh. Donc là, aujourd'hui, l'ensemble de nos filières se développe et le besoin se fait de plus en plus sentir. Si nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que le consommateur, quel qu'il soit, puisse pouvoir manger de la viande locale, de la viande fraîche et de qualité. Donc pour cela, il faut que le prix à la distribution lui soit attractif.
C'est ça.
Donc pour cela, il nous faut tirer un maximum sur nos prix et on peut le faire simplement en percevant des aides qui vont venir compenser cela. Et en compensant cela, le consommateur, il va pouvoir... Et si on veut également créer bien sûr de la richesse et de l'emploi, il nous faut impérativement aller vers une augmentation de notre taux de couverture.
Est-ce qu'il y a des éleveurs qui n'ont toujours pas adhéré à Intervig, où vous avez sillonné l'ensemble du département, vous avez fédéré l'ensemble des membres de la profession?
Alors, je vais apporter un petit élément d'éclaircissement pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Au sein de l'interprofession, il y a la famille Amont et Aval. Et donc, la famille Amont, les producteurs, ils sont au sein de structures. Ce sont les structures qui adhèrent à l'interprofession, pas les agriculteurs individuellement. Donc forcément, par ricochet, les agriculteurs sont dans les structures. Et leurs représentants au sein de ces structures-là siègent au sein du conseil d'administration de l'interprofession. Et définit avec l'interprofession les objectifs qui ont été fixés par leur groupe. Et ça remonte chez nous et on fait en sorte que les choses avancent.
Parfait. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces éclaircissements sur le fonctionnement d'Intervig. Bonne continuation à vous. Cet entretien est à retrouver en radio sur Cayenne, bien évidemment, en multidiffusion et à Saint-Laurent sur 89.2 et sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo. Merci, Monsieur Patrick Labranche. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous et puis merci à vos auditeurs.